le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Les tests génétiques permettent de prédire, avant tout symptôme précurseur, une maladie qui pourrait frapper un patient. La maladie n'est ni certaine, ni immédiate. Une thérapie préventive est parfois sans risque, parfois très lourde, parfois impossible, et ces diagnostics peuvent être portés sur une personne, sa famille ou un embryon. De telles prédictions peuvent sauver, mais aussi plonger des patients dans le désarroi. Pour débattre de ces questions, la bibliothèque de l'UBU a invité Claude Firec, chef de service du laboratoire de génétique au CHRU de Brest, directeur scientifique de l'établissement français du sang et conseiller scientifique régional de l'INSERM. Philippe Ouvrard, professeur agrégé de philosophie et membre du comité d'éthique du CHRU de Brest. Et enfin, Quentin Lepluard, doctorant en droit au LabLex à l'UBU. Pour entamer notre réflexion dans cette première émission d'une série de trois portant sur la médecine prédictive, nous en traçons d'abord les contours scientifiques et juridiques. Dans un deuxième numéro, nous aborderons les questions éthiques associées, puis en dernière émission, à partir des questions du public, nous nous focaliserons sur l'évaluation de la gravité d'une maladie, le contrôle de la recherche, le droit de savoir ou de ne pas savoir, et le statut de la vulnérabilité humaine. La parole à Claude Firec.
Bien, bonsoir à tous. Écoutez, merci d'abord de cette invitation. Et puis, je crois que c'est intéressant d'avoir un échange aussi avec vous et puis et avec vous. Parce que bon, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, qui est passionnant, bien sûr. Alors, peut-être que celui qui avait un peu lancé les choses et qui avait un peu le premier était... un des pionniers de cette médecine prédictive, c'est Jean Dausset. Jean Dausset, vous savez, qui a été prix Nobel de médecine il y a déjà 30 ou 40 ans, et qui avait découvert le système d'histocompatibilité. Vous savez, c'est un système de, je dirais, de sorte de groupe tissulaire qu'on porte sur chacune de nos cellules. Et en découvrant ce système, qui sert aujourd'hui beaucoup pour trouver des compatibilités parfaites ou aussi bien, aussi bonne que possible entre un donneur et un receveur. Donc ce système, finalement, qui est notre carte d'identité biologique, il avait montré que dans certaines maladies, dans certains rhumatismes, finalement, qu'on appelle la pelvis spondylite rhumatismale, un rhumatisme qui est assez fréquent, eh bien, les sujets qui avaient ce rhumatisme, ils avaient presque tous un antigène particulier d'histocompatibilité, l'antigène B27. Mais c'est un antigène qui est présent chez 10% de la population. Donc le fait, finalement, que chez les malades, 80% des malades avaient cet antigène, qui est par ailleurs présent, finalement, chez probablement 2 ou 3 personnes parmi nous, eh bien, a apporté cette notion, finalement, de probabilité ou de facteur de risque ou de facteur génétique qui, quelque part, montrait une association, finalement, entre un marqueur génétique et puis une maladie. Et donc ça a ouvert finalement le champ de la médecine prédictive. Ce n'est pas un diagnostic de certitude, mais c'est un élément finalement qui peut permettre finalement de nous faire avancer dans un diagnostic. Alors aujourd'hui, ça a été un petit peu bien dépassé tout ça parce que, comme vous le savez, le génome a été séquencé. On a découvert énormément de marqueurs génétiques, de variabilité, de variants dans le génome. Et tous ces marqueurs finalement confèrent peuvent conférer en tout cas un risque de développer une pathologie particulière. Donc ce sont des facteurs de risque. Ce ne sont pas des diagnostics de certitude, ce sont des facteurs de risque qui nous ont permis de rentrer dans cette médecine prédictive et dans une médecine donc préventive finalement, parce que quand on peut prédire finalement un risque, on peut aussi prévenir et modifier. C'est l'aspect positif des choses, modifier finalement notre mode de vie, modifier, faire en sorte que ce risque génétique que l'on peut porter, eh bien, on peut le l'atténuer peut-être en prenant certaines précautions. Si on a un risque particulier de faire une thrombose veineuse, par exemple, une phlébite, eh bien, parce qu'on a un petit facteur génétique, mais on va pouvoir prendre des précautions quand on va prendre l'avion, par exemple. Donc on va pouvoir finalement adapter notre vie en fonction de notre profil génétique. Donc c'est un peu tout ce parcours-là que la médecine prédictive et qui est rentrée dans cette médecine préventive nous a apporté aujourd'hui. Mais encore une fois, on n'est pas dans un diagnostic de certitude, on est dans une probabilité. Et c'est là qu'effectivement on en reparlera, la notion de mathématiques et de statistiques et de probabilité qui est toujours difficile à faire passer finalement. Hein. On aime bien tous, autant qu'on est, que les choses soient noires ou blanches. Hein. Et quand on vous dit que c'est un peu gris, c'est pas toujours facile à expliquer, c'est pas toujours facile à comprendre, mais ça fait partie de ce que ça nous apporte aujourd'hui.
D'accord, très bien, merci. Deuxième question, la médecine prédictive, la génétique transforme notre rapport individuel à la santé, mais aussi notre rapport collectif. Et alors, Monsieur Ferrec, comment expliquer donc à l'assistance, dans un temps quand même limité, peut-être le minimum à connaître pour un honnête homme, une honnête femme sur la médecine prédictive, sur la génétique, sur ses possibilités et ses limites, pour appréhender ces enjeux. Qu'est-ce qui serait un savoir de base pour pouvoir penser la question de la génétique d'un point de vue social, politique. C'est une difficile question.
Hein. Oui, c'est une question difficile hein, parce que la génétique, finalement, c'est probablement la dernière spécialité médicale qui a été organisée, structurée en fait. Hein. Les premières lois finalement de transmission des caractères héréditaires ont été définies par Mendel au milieu du 19e siècle, hein, qui faisait des croisements de petits pois, vous avez probablement entendu parler de cela. Hein. Et à partir de ses expériences de botaniste, il a posé les modes de transmission des caractères héréditaires finalement. Et donc, ces lois qu'on appelle les lois de Mendel ont été complètement oubliées à l'époque où il a publié cela dans une revue d'agronomie. Et ça a été redécouvert au début du XXe siècle, en fait, hein, quand Karl Landsteiner s'est intéressé au groupe sanguin. Et à ce moment-là, il essayait de comprendre finalement pourquoi la transfusion sanguine, de temps en temps, ça marchait très bien, et puis de temps en temps, c'était une catastrophe. Et donc, en faisant ça, il a compris que sur nos globules rouges, eh bien, on avait des antigènes et qui étaient compatibles certaines fois ou incompatibles d'autres fois. Et ces antigènes, le groupe A, le groupe B, le groupe O, finalement, ils se transmettent aussi selon les lois de Mendel. Et donc, ça a été redécouvert à ce moment-là. Et donc, ça a été la génétique, au début du XXe siècle, a progressé. Et surtout, alors après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 44-45, l'ADN a été découvert hein, comme support, finalement, de l'hérédité. Hein. Cette molécule d'ADN qui est présente dans le noyau de toutes nos cellules, ben, c'est elle qui porte l'information génétique. Hein. Et sur cette molécule d'ADN, on a 46 chromosomes, hein, 23 paires. Et sur ces 23 paires de chromosomes, eh bien, on a 22 000, 23 000 gènes qui sont autant de petites sources d'information. Hein. Et bien sûr, cette source d'information génétique, eh bien, elle nous vient pour moitié de notre père et pour moitié de notre mère pour former un nouvel être à chaque génération. Et donc, ces caractères héréditaires, bien sûr, ils nous viennent de toutes les générations qui nous ont précédés, et puis on va les transmettre à nos enfants. Donc c'est vrai que la génétique, finalement, c'est quelque part un instant dans la transmission des générations extrêmement important, parce que on est finalement à la fois... On a reçu un nombre d'informations génétiques importantes de toutes les générations qui nous ont précédées, et puis on va les transmettre aussi. Et aujourd'hui, on vit une époque, et bon, j'ai eu la chance effectivement de vivre de cette époque où ce qui était encore inimaginable dans les années 50-60, eh bien, de comprendre ce qui est réellement le support de ce que l'on est, c'est-à-dire de l'information génétique. Et donc, le code génétique a été découvert, les gènes dans les années 80, les uns après les autres, et en particulier les gènes de maladie chez nous, chez l'homme, ont été identifiés. Et donc, aujourd'hui, le séquençage du génome humain nous permet d'avoir accès à une somme d'informations extrêmement importante qui nous permet, évidemment, de faire des progrès à la fois dans la connaissance et dans la prévention, et puis, bien sûr, ce qu'on espère, dans le traitement d'un certain nombre de maladies. Donc ça, c'est pour, je dirais, notre partie... la génétique médicale, mais la génétique aussi, bien sûr, elle est au-delà. Une génétique qui est importante pour les hommes qui s'occupent d'animaux, hein, par exemple. Hein, on connaît aujourd'hui le génome des souris, des rats, des chiens, etc. Donc tous ces génomes animaux sont connus. Et les poissons aussi, bien sûr. Et donc, finalement, on peut faire des comparaisons entre l'évolution et des espèces. Et ça nous permet aussi de comprendre, finalement, les mécanismes fondamentaux de la vie, quoi. Donc, on a là... Alors, je vais résumer à quelques grands traits. Hein. Vous voyez, la découverte de l'ADN, la découverte du code génétique, le séquençage des gènes responsables des maladies d'abord, et le séquençage du génome humain. Tout ça, ça a été des étapes extraordinairement rapides, finalement, dans l'histoire de l'humanité. Hein. C'est ce que je vous ai dit là, ça a pris 50-60 ans à peu près. Hein. Et aujourd'hui, on se trouve finalement à une époque un peu charnière où on a une somme d'informations colossales qui déjà est rentrée complètement finalement dans les différentes disciplines médicales, hein, que ce soit les pédiatres, que ce soit les hématologues, que ce soit les endocrinologues. Il n'y a pas une spécialité médicale aujourd'hui qui ne s'est pas emparée finalement d'informations génétiques sur ces gènes. Et puis bien sûr les généticiens qui font un peu la synthèse de tout cela, quoi. Donc réellement des progrès scientifiques extraordinaire, hein, en 50-60 ans, et puis qui ont soulevé un certain nombre de problèmes dont on va parler sûrement.
D'accord, oui. Peut-être un point sur je sais pas, l'usage des statistiques et de l'informatique en génétique.
Oui.
Et peut-être un mot peut-être sur l'épigénétique pour comprendre.
Oui. Alors, quand on parle de génétique, c'est vrai que ça regroupe à la fois... Évidemment, en médecine humaine, hein, ce sont les pédiatres au départ qui se sont occupés de génétique. Ils voyaient des enfants qui avaient une dysmorphologie. Ils essayaient finalement de mettre des noms là-dessus. Donc ça a été finalement une discipline assez contemplative pendant des années où il fallait simplement observer, poser un diagnostic, envisager différents traitements. Et on n'avait pas la connaissance des gènes qui étaient en dessous. Il a fallu après que les caryotypes apparaissent, qu'on soit capable d'identifier les gènes responsables de ces anomalies. Donc il y avait vraiment une partie de la génétique qui est une partie descriptive. Et puis après, il y a une partie qui a été une partie finalement que nous a apporté le karyotype, hein, où on pouvait regarder les chromosomes, s'apercevoir qu'il y en avait quelquefois un de trop, par exemple, ou qu'il y avait des cassures de chromosomes. Et puis après, que c'était associé à certaines maladies. Et puis après, il y a eu l'époque finalement des gènes.
Corrélation.
Hein, voilà. Et dans les généticiens et dans notre unité INSERM, on a des généticiens qui sont des spécialistes actuellement. Emmanuelle Génin, qui dirige l'unité, qui a pris ma suite, eh bien elle vient du monde des mathématiques et des statistiques. Et donc, elle fait de l'épidémiologie génétique en utilisant finalement des modèles mathématiques pour comprendre un certain nombre d'interactions entre les gènes, un certain nombre de postulats de recherche finalement. Donc à la fois aujourd'hui notre génétique, c'est à la fois du diagnostic, bien sûr, c'est à la fois des gènes et c'est à la fois des mathématiques, et c'est un peu la synthèse de tout ça qui nous permet d'avancer et de comprendre cela. Et puis on s'est aperçu, pour continuer sur la question, que finalement on avait notre ADN, on avait notre structure, et puis au cours de la vie, cet ADN, finalement, il ne change pas, il ne se modifie pas, seulement il est modulé par l'environnement. Et donc, il peut y avoir des régions de certains gènes qui peuvent être éteintes ou, au contraire, qui peuvent être stimulées. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire des facteurs, finalement, environnementaux qui vont faire que notre patrimoine génétique va être un peu modifié au fil de notre évolution au travers des années. Et ça... Aujourd'hui, en tant que médecin, ça nous intéresse de comprendre finalement cette épigénétique et leur association avec certaines pathologies, avec certaines maladies. Et ça, c'est un champ tout à fait intéressant, tout à fait nouveau finalement, et sur lequel effectivement les jeunes générations vont devoir se pencher pour mieux comprendre ça.
Bien, merci.
La médecine prédictive, c'est d'abord l'annonce à une personne d'une probabilité de maladie qui peut la concerner, concerner son enfant ou un embryon. À ce moment-là, mais sans doute même avant, la médecine rencontre l'éthique et le droit. Je me tourne maintenant vers Quentin Lepluard, doctorant en droit au LabLex à l'UBO. De quelle manière, Quentin, le droit est affecté par les récentes évolutions de la génétique ? Comment les juristes et les législateurs en prennent connaissance et comment ajustent-ils leur travail à ces évolutions ?
Oui, c'est une très bonne question. Merci beaucoup donc déjà de m'avoir invité.
Même au pied levé, c'est moi qui vous remercie.
Non, non, ça fait toujours très plaisir et je vous remercie de la confiance
que
vous mettez en moi. J'espère que je ne vais pas en abuser. Donc, de quelle manière le droit est affecté par l'évolution des techniques génétiques ? Matériellement, il est affecté en profondeur. Si vous voulez, le droit, en ce qu'il est cet art de réguler les relations des êtres humains entre eux, il a vocation à connaître de quasiment toutes les évolutions, qu'elles soient techniques, scientifiques et même philosophiques un petit peu. Donc matériellement, le droit, il est impacté par l'évolution de ces techniques. Le droit, il englobe, selon le philosophe du droit Michel Villet, franchement et sans réserve, tout ce qui existe dans le monde, et notamment l'évolution des techniques génétiques. Le droit, depuis 1804, la critique qui lui a été faite, c'est de dresser un portrait de la personne humaine qui était totalement désincarnée. On connaissait la personne humaine dans ses rapports avec les autres, mais absolument pas dans ses rapports avec son corps. Le corps humain n'était absolument pas traité dans le Code civil jusqu'en 1994, avec les premières lois de bioéthique. C'est l'une des principales critiques qui lui a été faite. Mais avec les progrès justement de la génétique, de la science, des sciences du corps, le droit est invité à les prendre en compte et à tenter de les réguler en tout cas. Ainsi, pour ma thèse, moi, je travaille sur le transhumanisme et le droit privé. Je me suis amusé à faire une recension dans quelques articles de mélange de tous les articles, de tous les auteurs qui faisaient référence au roman Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, un roman dans lequel la sélection génétique est mise en place. C'est un roman qui date de 1934, donc avant même le grand développement des sciences génétiques dont on vient de nous faire le portrait. Et j'ai trouvé comme ça une dizaine de références, une dizaine d'auteurs, donc de 1969 à 2012, qui faisaient référence à cet essai-là. Donc la preuve, s'il en fallait, que ces questionnements, ils sont anciens. Ils datent d'une certaine époque, en tout cas en droit, en doctrine. Et ces questionnements-là, ils sont utilisés, cette référence-là, au meilleur des mondes d'Aldous Huxley, elle est utilisée comme une invitation à agir pour éviter que cette dystopie ne se réalise. Je vous rappelle, Aldous Huxley, le meilleur des mondes, c'est un monde dans lequel les embryons sont sélectionnés, ils sont triés et ils sont traités même. On ajoute de l'alcool dans certains embryons pour qu'ils se développent, pour faire des catégories d'êtres humains qui vont des êtres humains epsilon aux alpha plus. Donc il y a une catégorie de la population qui est faite, une catégorisation des embryons qui est faite. Voilà, c'est une invitation à agir, cette référence-là qui est faite par les auteurs, pour éviter que cette société n'advienne, que cette société dystopique n'advienne. Et en ce sens, le droit va agir, va tenter en tout cas de prendre les dispositions pour éviter ce genre de dérive possible, dérive qui est totalement possible avec la médecine prédictive, mais on en parlera par la suite, je crois. Voilà donc comment le droit, en tout cas, est impacté, affecté par l'évolution de ces technologies.
Alors peut-être plus précisément, quel exemple on pourrait prendre dans les évolutions récentes du droit à propos de la génétique ?
La génétique, la médecine prédictive même a été régulée, si vous voulez. Il y a une loi qui est parue en 2008 sur la médecine prédictive qui prévoit les modalités dont un médecin, ce qu'un médecin doit faire lorsqu'il pratique un test génétique, l'accompagnement de la personne, le processus d'accompagnement de la personne lorsqu'on lui découvre une maladie. Est-ce qu'il faut le révéler à ses proches? Donc, oui. En 2011, par exemple, on a obligé la personne est tenue maintenant, si on lui découvre une maladie génétique grave et qui peut être, pour lequel il peut y avoir des préventions, des actions de prévention de fait, elle est tenue d'informer les membres de sa famille qui pourraient présenter le même symptôme, la même affection.
D'accord. Elle est tenue d'informer.
Voilà. C'est, le droit le prévoit, ça. Donc, il y a une certaine prise en compte dans le droit. Ça, c'est
d'accord. Bien. Alors, peut-être, dernière question, enfin, à ce stade. Comment font les juristes pour voir ce qui se passe, pour voir les évolutions? Je pense que c'est compliqué, vous n'êtes pas médecin.
Ben c'est ça.
Bon, vous êtes juriste. Et en même temps, vous travaillez sur le transhumanisme. Le transhumanisme se réfère à des techniques médicales très sophistiquées. Vous, vous n'êtes pas médecin, vous êtes juriste. Alors comment vous faites?
On essaye au maximum déjà de
suivre.
Oui, de suivre l'actualité dans le domaine. On essaye de comprendre un maximum. Mais c'est sûr, on n'est pas juriste. Mais de toute façon, il faut voir que le droit, c'est pas uniquement du droit. Enfin, il y a eu une période où effectivement les juristes ne faisaient que du droit. On avait des cours de code Napoléon. Enfin, c'est l'école, ce qu'on appelait l'école de l'exégèse, où les juristes n'enseignaient que la loi, ils ne la critiquaient pas, ils ne faisaient que l'expliquer ou que l'enseigner. Mais depuis justement le siècle dernier, depuis le début du siècle dernier, il y a le juriste est invité à avoir une réflexion critique sur le droit avec tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il peut apporter à cette réflexion. Hein, et donc chacun y amène ce qu'il sait, que ce soit de la philosophie du droit en particulier, de l'histoire du droit également en particulier, du droit comparé. Toutes les références de la théologie, tout ce que la personne peut amener comme point de comparaison, comme point de liaison avec le droit. Et en ce sens, c'est là que la réflexion pluridisciplinaire qui se met en place, et notamment en matière de bioéthique, hein, avec les comités, que ce soit le Comité consultatif national d'éthique, qui est composé ainsi, donc, dont la composition est prévue dans la loi, qui est composé de plusieurs représentants des principales familles spirituelles et, enfin, voilà,
d'accord, ouais.
De plusieurs représentants, non seulement juristes et non seulement médecins. Mais voilà, on essaye de mettre en place une réflexion pluridisciplinaire.
En fait, c'est tout le corpus de doctrine. Tous les juristes qui ne sont pas ni législateurs, enfin, ils ne sont pas législateurs.
Ils ne sont pas législateurs, c'est ça.
Ils peuvent enseigner le droit à la fac.
Oui, ils peuvent le critiquer, ils peuvent être des praticiens.
Voilà.
Voilà, ils vont essayer d'apporter quelque chose.
Donc c'est toute la littérature qui est dans cette bibliothèque-là qui...
Tout à fait.
qui permet de... De faire
ça,
le lien entre société et droit.
Voilà, c'est ça, on essaye d'enrichir le droit avec des sciences annexes. Et on est obligé de le faire matériellement. C'est pour ça qu'il y a aussi une remontée et des modes d'organisation internes à la médecine dans le droit. Hein, il y a eu le code de déontologie qui a été... Enfin, qu'on a amené au niveau légal, qu'on a consacré au niveau légal. De plus en plus... Le droit essaye de partir de la base. C'est ce qu'on voit également avec les états généraux de la bioéthique, où les citoyens sont invités à exprimer leur avis, leurs opinions, sur justement les thèmes de société qui concernent la bioéthique. Voilà.
D'accord, très bien.
Comme il y a eu l'année dernière.
Bien. J'en profite pour faire une publicité. Au mois de novembre, il y a une table ronde ici avec le département de droit sur l'animal, la souffrance animale. L'animal est-il une personne ? J'ai pas la date exacte, ce sera mi-novembre. Et ce sera passionnant, donc comment les juristes en parlent, la question animale, regarde tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la presse. Je vais me tourner vers Philippe Ouvrard, qui est philosophe et qui est là pour l'éthique. La première question, c'est la question de savoir. On n'a pas toujours envie de savoir. Il y a par exemple une maladie qui s'appelle la maladie. Elle est radicale. Enfin, c'est un cas extrême. Hein, je l'entends bien. Mais la maladie de Huntington, qu'on peut déceler dans l'embryon, même. Oui, je parle sous contrôle. Hein. Et qui se manifeste, je parle toujours sous contrôle, vers 30-40 ans, 40 ans peut-être, et qui se termine très mal, enfin, qui se termine très mal. Ça attaque, le système nerveux, la locomotion, l'élocution, la mémoire, etc. Donc, on va dire qu'il y a plusieurs cas possibles. Vous l'avez peut-être, vous pouvez faire des tests et vérifier si vous l'avez vraiment. Bon. Vous savez que vous l'avez peut-être parce que vos parents, votre père, votre mère, l'ont eu, en sont morts même. Vous les avez vus, même malades. Et vous pouvez savoir ou pas savoir. Quand vous faites un enfant, l'enfant peut être touché aussi, et donc vous pouvez savoir ou pas savoir. Vous pouvez même aller jusqu'à savoir et, par exemple, aller vers une interruption de grossesse ou pas. Et donc la question, c'est le droit de savoir et le droit de ne pas savoir. Et là, je me tourne vers Philippe. Comment cette question peut être posée par quelqu'un comme vous, philosophe, qui s'intéresse à l'éthique ?
Bonjour à tous, d'abord, et merci de l'invitation. D'abord, juste une précision, je ne suis pas spécialiste de l'éthique. L'éthique, ça appartient à tout le monde, et tout le monde qui peut s'exprimer en tant que citoyen a un avis valable possible. Disons, moi, j'essaie à partir de... Moi, je suis enseignant en philosophie en lycée, et j'essaie d'apporter juste un éclairage de concept. Et quand on essaie de voir ce qu'il y a d'original dans la bioéthique, enfin, dans la médecine prédictive, c'est qu'on a une situation nouvelle concernant le patient, puisqu'on a des informations qui concernent des gens qui ne sont pas encore malades, et dont on dit qu'ils ont la probabilité de développer une maladie plus tard, peut-être. Et donc, ça change pas mal de choses concernant les patients, puisque le patient n'est plus malade impliqué dans les maladies. Il est sain, porteur sain, il est en bonne santé, mais il est concerné par la perspective d'un risque. Ça change aussi des choses, me semble-t-il, concernant les médecins eux-mêmes, puisque les médecins, logiquement, sont là pour le soin. Et par rapport à la perspective d'un risque probable, mais non déterminé, la relation du médecin au patient, me semble-t-il, change un peu. Et puis, je crois aussi que ça change quelque chose entre les deux, entre le patient et le médecin, parce que quand on parle d'un risque, on parle d'une probabilité. Et une probabilité, ça concerne à toute rigueur une population. Si on me dit que j'ai la probabilité d'avoir une probabilité de, mettons, 12% d'avoir un jour peut-être telle maladie, il y a bien une information exacte, mais sur un objet qui, lui, est incertain.
Elle est exacte pour la population, mais pas pour l'individu.
Elle est exacte en tant que statistique. On peut la quantifier. Mais pour la population, on va dire que c'est une population à risque. Et pour l'individu, ça veut dire qu'il est dans cette catégorie-là. Quoi. Donc ce que j'apprends dans ce cas-là, c'est que je fais partie d'un groupe. Dans lequel il peut y avoir ce risque-là. Et il me semble que ça change les choses quant à l'effet que ça produit quand on annonce ça. Parce que si on me dit « vous avez une probabilité de », c'est extrêmement difficile d'appréhender déjà une probabilité de façon statistique, même lorsqu'on nous donne des statistiques, ça donne l'impression qu'on a une information sur le réel, alors qu'on a une information sur le possible. Et on n'a pas une information sur l'individu, mais on a une information sur une population. Et l'effet que ça produit peut être assez saisissant sur la personne, parce qu'elle peut se dire « Ah ben ça y est, moi je suis concerné », alors que peut-être elle ne développera jamais de sa vie le risque de la population concernée.
Merci à Claude Férec, chef de service du laboratoire de génétique au CHRU de Brest et directeur scientifique de l'établissement français du sang et conseiller scientifique régional de l'INSERM. Merci à Philippe Ouvrard, professeur agrégé de philosophie et membre du comité d'éthique du CHRU de Brest. Et merci à Quentin Lepluard, doctorant en droit au LabLex à l'UBU. Nous les retrouverons dans le prochain numéro pour aborder les questions éthiques associées aux nouvelles possibilités permises par la médecine prédictive. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.